il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Je veux souligner le verset 25. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Les disciples. On ne sait pas lesquels. Ils ne sont pas nommés. Notre message aujourd'hui, c'est le serviteur anonyme. Vous savez, chaque pays a ses soldats, ses héros inconnus. Eh bien, l'Église a aussi ses serviteurs inconnus, anonymes. Et pourtant, qui sont tellement importants, tellement utiles. Les disciples le prirent, c'est-à-dire Paul, à l'époque qui s'appelait Saul, et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Qui est Saul à l'époque? C'est un jeune converti, quelqu'un qui persécutait l'Église et qui a fait une rencontre avec le Seigneur, qui a compris qu'il s'était trompé et maintenant, qui a compris qui est Jésus réellement, et le voilà tout feu, tout flamme pour son Seigneur. Il prêche maintenant celui qu'il persécutait. Ça a semé le trouble dans certaines têtes et surtout la rage chez certains qui disaient « cet homme doit mourir ». Paul commençait à peine son ministère. Et voilà que des gens voulaient le tuer. Et quelques disciples ont décidé d'aider cet homme à fuir, à sauver sa vie. Donc pendant une nuit, comme la ville était gardée, vous savez, à l'époque, les villes importantes étaient entourées d'une muraille. Il y avait des portes. Comme par exemple à Bruxelles, en fait, même si ces portes n'existent plus, mais il y a plusieurs portes, portes d'Anderlecht, portes, etc. Donc, il y avait plusieurs portes, ou parfois une porte principale. Les portes étaient gardées parce qu'on voulait tuer Paul. Alors, une nuit, quelques disciples, eh bien, le prirent et le descendirent par la muraille, hein, justement, je parlais de muraille, par la muraille dans une corbeille. Maintenant, ces disciples-là qui ont sauvé Paul ne savaient pas encore ce que cet homme allait devenir. C'était juste un tout nouveau converti, comme tant d'autres. Ils ne savaient pas que ce Paul allait écrire la moitié de notre Nouveau Testament. Il ne savait pas que ce Paul allait devenir un puissant serviteur de Dieu, un apôtre important. Mais ils ont simplement fait leur devoir. Il y avait un frère qui était en danger. Il y avait un frère qui était en difficulté. Ils ont décidé de l'aider. Ils ont décidé de lui sauver la vie. Imaginez la contribution de ces hommes, de ces disciples, par ce simple petit geste, pourtant si important. L'apôtre Paul, à travers duquel le Seigneur allait sauver tellement de gens. L'apôtre Paul, à travers duquel Dieu allait bâtir tellement d'églises. Un peu partout, dans tout le bassin méditerranéen, Paul qui allait faire plusieurs voyages un peu partout et qui allait bâtir des églises. Beaucoup d'âmes allaient être sauvées. Mais ces hommes, sûrement à ce moment-là, quand ils ont descendu Paul, ils ne se rendaient pas compte de l'impact de leurs gestes, de l'impact de ce qu'ils avaient fait. Vous savez, tous les jours, nous commettons de petits gestes, de petits actes. Et nous ne savons pas vraiment l'importance de ces actes-là. Parfois, ce petit geste sauve la vie de quelqu'un. Et ce quelqu'un, nous ne savons pas quel impact cette personne aura sur d'autres vies. Mais ils ont fait un geste, et alors Paul a été sauvé, et Paul a pu faire un ministère, a pu exercer un ministère puissant à la gloire de Dieu. Et la Bible est remplie de tels serviteurs anonymes. Dans Marc 2, on peut lire ça aussi. À partir du premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Il dit porté par quatre hommes. On ne sait pas qui sont ces hommes. Tout simplement quatre hommes. Voilà, grâce à l'aide de ces quatre hommes, eh bien, ce paralytique va non seulement être guéri, mais il sera sauvé. Parce que Jésus, quelques versets plus tard, alors on va continuer à lire, comme ça vous pouvez le voir, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, la foi de ces hommes, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà, ce paralytique a été guéri grâce à quatre hommes anonymes. Ils ont vu que cet homme était en difficulté. Ce paralytique voulait être touché par Jésus, être guéri par Jésus, mais par lui seul, il ne pouvait pas s'approcher. Surtout qu'il y avait une grande foule qui entourait la maison, qui bloquait le passage. Mais il y avait ces quatre hommes de bonne volonté, ces quatre hommes anonymes, ils ont tout fait. Donc, comme il n'y avait pas le passage, ils ont créé un passage au travers du toit. Vous savez, à l'époque, les toits des maisons étaient plats. Ce n'est pas comme en Belgique où les toits sont en pente, mais c'était... Et ils sont montés, et ils ont creusé un trou, et ils ont descendu cet homme. Donc, Regardez le geste de ces anonymes. D'autres exemples, c'est dans Deux Rois chapitre 5. Vous connaissez cette histoire. Deux Rois chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman le lépreux. Deux Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et il dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rentre à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc on connaît la suite de l'histoire. Mais maintenant, ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'il y avait une petite fille, une jeune fille, une petite fille captive. Hein, vous savez, quand les envahisseurs étaient arrivés en Israël, ils ont pris une bonne partie de la population avec eux en captivité. Et parmi ces captifs, il y avait cette jeune juive, cette petite fille. Et alors, quand Naaman, le puissant Naaman, le chef de l'armée de Syrie, est tombé malade, était atteint de la lèpre, une maladie vraiment ignominieuse à l'époque. Une fois que tu avais la lèpre, tu étais coupé de la société. Et donc cet homme puissant, de par sa maladie, allait perdre toute sa puissance, toute sa noblesse, et cette petite fille. Et il a dit une petite fille, il n'est pas dit qui. Et pourtant, grâce à cette petite fille, Naaman va connaître la guérison. Donc vous voyez, pour servir le Seigneur, ce n'est pas nécessaire d'être célèbre. Ce qui compte, ce n'est pas la célébrité. Ce qui compte, c'est la disponibilité entre les mains du Seigneur. Amen. Alors ce matin, sommes-nous disponibles entre les mains du Seigneur pour qu'il nous utilise à sa gloire? Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Il ne faut pas mépriser les petites choses. Beaucoup de gens disent, j'aimerais faire de grandes choses pour le Seigneur. Et pourtant qu'ils négligent les petites choses. Regardez juste un témoignage de cette petite fille. Ah, si seulement mon maître connaissait le prophète en Israël. Et ces hommes, les hommes que nous avons vus à Damas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement mis Paul dans une corbeille pour le faire échapper. Et pourtant, quel impact! Quel impact! Il y a encore une autre histoire. On retourne au Nouveau Testament. Jean 6. À partir du premier verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Fais-les asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000. » Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Maintenant, imaginez encore l'histoire ici. Jésus, voyant la foule, une grande foule, et pose à Philippe la question, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Mais Jésus, il a dit, savait déjà ce qu'il allait faire. Alors Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Et alors il y a un disciple qui va avoir une idée vraiment bizarre, saugrenue. Un des disciples, André, frère de Simon, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Peut-être aujourd'hui on dirait, « Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes ?» 5 pains et 2 poissons. On parle de nourrir plus de 5 000 personnes et toi tu parles de 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, Dieu va faire un grand miracle au travers de cette provision d'un petit garçon. Le petit garçon a offert ses 5 pains et 2 poissons et avec cela, Jésus va accomplir un grand miracle. De sorte que les gens puissent dire par après, celui-ci est vraiment le prophète d'Israël. À partir de quoi Jésus va-t-il opérer son miracle? À partir des 5 pains et 2 poissons que ce garçon a offert. Un garçon anonyme, à nouveau. Et aujourd'hui, on va dire, ah, qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur? 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce que cela peut faire? Mais ce que le Seigneur nous demande, ce ne sont pas de grandes choses, mais ce sont de petites choses. Amen. Ce sont de petites choses, et ce sont ces petites choses-là qui vont faire la différence. Et c'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui multiplie. Nous offrons le peu que nous avons, et Dieu multiplie. Dieu fait le reste. Vous savez, quand le peuple d'Israël allait entrer à la terre promise et que le Jourdain était en crue, à cette époque de l'année, nous dit la parole de Dieu, eh bien, c'était le moment où le Jourdain débordait. Comme ça s'est passé en France ces derniers temps où parfois des rivières débordent, ou même en Angleterre. Et alors, mais les enfants d'Israël devaient traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Eh bien, vous mettez, il a parlé au sacrificateur, vous mettez le pied. Et au moment où les sacrificateurs ont mis le pied, un pied dans le Jourdain, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le flot s'est arrêté et il y a eu un passage dans le Jourdain. Ce que Dieu nous demande, parfois, c'est un petit geste, le premier pas. Le Seigneur nous dit, fais le premier pas. Quelqu'un dit, ah, comment est-ce que je peux servir le Seigneur? C'est dur, c'est difficile, mais fais le premier pas. Donne ton cœur à Jésus. Seigneur, je sais que c'est difficile, mais je fais le premier pas. Et je sais que toi, par après, tu vas m'aider. Ça peut paraître énorme, le combat devant nous, le projet devant nous. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est le premier pas. Fais un premier pas, et alors lui-même va arrêter cette rivière en crue. Dieu nous demande de faire un pas. Et un pas, quelquefois anonyme, où personne ne nous voit. Mais Dieu, lui, il nous voit. Amen. Il faut agir comme si que Dieu nous voit. Il y a des gens qui ne vont jamais agir tant que peut-être les caméras ne sont pas braquées sur eux. Ils ne vont pas agir, ils ne vont pas intervenir. Mais c'est seulement quand tous les projecteurs sont là, braqués sur eux, alors ils vont agir, ils vont faire semblant de quelque chose. Ou comme certains, parfois il y a des ouvriers qui ne vont travailler que seulement lorsque le patron est là. Je me rappelle quand j'étais un jeune garçon, et là où j'étais à l'école, c'était à l'école des frères catholiques, les frères de l'instruction chrétienne. Et à un moment donné, je me rappelle, il y avait quelques ouvriers qui devaient faire un travail à l'école. Et à un moment donné, ils étaient tous assis comme ça à raconter des blagues, à prendre du bon temps. Et puis tout d'un coup, ils avaient un signal, un signalement. Ils disaient « La pluie !» Quand ils disaient « La pluie », ça veut dire qu'il y avait le patron qui arrivait. Alors tout le monde se remet au travail. Tout le monde se remet au travail. Donc des fois, il y a des gens, pour faire quelque chose, il faut que les projecteurs soient braqués. Il faudrait que des gens les voient. Mais il y a quelqu'un qui nous voit constamment. C'est le Seigneur. Et lorsque nous savons, lorsque nous sommes conscients que Dieu nous observe, eh bien, on est honnête. On est droit. On est sincère. Et on fait ce qu'il y a lieu de faire. Et en temps voulu, c'est le Seigneur lui-même qui nous récompense. Et la récompense du Seigneur est tellement plus grande. Vous savez, ce que l'homme peut nous donner, ce n'est pas grand-chose. Et ce que l'homme peut nous donner est aussi temporaire. Mais la récompense de Dieu est éternelle. Amen. La récompense de Dieu est éternelle. Donc voilà, c'est quelques exemples de la parole de Dieu, ces hommes dans Actes des Apôtres qui ont aidé un jeune converti, un nouveau converti. Ce n'était pas quelqu'un d'important à l'époque, Paul. C'était plutôt quelqu'un qui était dangereux. Ils auraient pu dire, ah, il mérite de payer pour ce qu'il a fait avant. Moi, je ne vais pas faire un effort pour aider un tel individu. Il avait fait tellement de tort à l'Église, maintenant qu'il paye. Il aurait pu agir ainsi. Mais ils ont aidé cet homme. Ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui était en difficulté et ils l'ont aidé. C'est la même chose avec ce qu'on appelle le bon samaritain. Il a vu quelqu'un par terre, dans la rue. Les professionnels étaient passés, c'est-à-dire les sacrificateurs, les lévites. Hein, ils avaient vu cet homme par terre dans son sang. Ils disaient, ah, je ne veux pas me mêler de cette histoire. Ils n'avaient qu'à ne pas passer par ce chemin parce qu'ils savent très bien que c'est un endroit dangereux. Ou bien ils ont sûrement dit, ah, je ne veux pas me mettre en danger. Et pourtant, le Samaritain, Jésus a fait exprès pour utiliser un Samaritain qui va sauver un Juif. Parce qu'à l'époque, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. ou plutôt les Juifs méprisaient les Samaritains parce que pour eux, les Samaritains, c'était des faux Juifs, des Juifs de sang mêlé. C'était des Juifs qui étaient restés en Israël et qui avaient épousé ou marié certains des envahisseurs. C'était devenu un peuple mélangé. Et donc pour les Juifs, lorsqu'ils sont revenus d'exil et il y avait ce Samaritain-là, ils les méprisaient. Et pourtant c'est ce Samaritain qui va voir un homme par terre et il ne s'est pas posé la question de quelle nationalité, de quelle religion, de quel parti politique il était, mais il a simplement vu un homme, un frère en danger, il a dit « je veux lui porter secours ». Et personne ne le regardait. Personne ne le regardait. Il n'a pas dit, ah, les gens m'observent, je dois faire quelque chose. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne d'autre. Lui et cet homme qui était en difficulté. Et il lui a apporté secours. Et Jésus a fait des compliments à cet homme. Donc, mes bien-aimés, ce que nous avons à faire, faisons-le. Que ce soit quelque chose de très petit. Ou peu importe si on nous regarde ou on ne nous regarde pas. Mais faisons-le. Soyons comme ces serviteurs anonymes. Et pourtant, qui ont eu un tel impact dans la vie, non pas d'une personne, mais de beaucoup d'autres. Parce qu'en sauvant Paul, ils ont sauvé beaucoup d'autres individus. Et je crois que lorsque Paul va recevoir sa récompense, ceux-là aussi vont participer à cette récompense. Ceux-là aussi vont participer à cette récompense. On raconte l'histoire d'un certain homme qui s'appelait Jerry Eglen. C'était un diacre d'église. Un jour, ça se passe en Angleterre, il y avait tellement de la neige que le pasteur n'a pas pu venir à l'église parce qu'il était bloqué par la neige. Et alors cet homme s'est retrouvé le diacre seul, en fait seul parmi les dirigeants de l'église à l'époque. Et cet homme n'avait jamais prêché. Et comme il était le seul diacre là, et il a prêché son premier sermon tout hésitant. Et à la fin de son sermon, il y a un jeune homme qui a accepté le Seigneur Jésus ce jour-là. Et cet homme qui a accepté Jésus s'appelait Charles Haddon Spurgeon. Et ce Spurgeon est devenu l'un des prédicateurs les plus célèbres, non seulement d'Angleterre, mais de toute l'histoire de l'Église. Et quand Spurgeon prêchait, on disait qu'il y avait plus de 5000 personnes qui venaient à chaque fois qu'il prêchait à ce qu'on appelait autrefois London's Metropolitan Tabernacle. Imaginez, Spurgeon qui va toucher des milliers de gens, mais comment est-ce que Spurgeon a pu toucher des milliers de gens? C'est grâce à cet homme, Jerry Eglen, qui, en obéissance au Seigneur, a apporté le message, et ce jeune homme s'est converti, et lui, par après, a touché beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'histoires ainsi. Dans l'histoire de l'Église, où un fidèle serviteur, une fidèle servante, dans sa fidélité, a obéi au Seigneur, a apporté son aide, a fait ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, lui a mis à cœur de faire. Ce que peut-être d'autres négligeaient, disaient, ah, c'est pas important, à quoi ça sert? Mais ils étaient fidèles. Ils l'ont fait. Et cela a eu beaucoup d'impact. Cela a eu beaucoup d'impact non seulement dans l'église locale, mais dans l'église nationale et dans l'église tout court. Alors, mes bien-aimés, chaque membre de l'église est important. Chacun de nous est important. Chacun de nous a quelque chose à apporter dans l'église de Dieu, dans le royaume du Seigneur. Que ce soit visible ou invisible. Parfois, ce qui est invisible a encore même plus d'importance. Celui qui est là en train d'intercéder, qui prie et personne ne sait qu'il prie. Peut-être quelqu'un vient y faire un puissant message et c'est quelqu'un qui est là en train de prier et intercéder pour celui qui apporte le message. Et on ne sait pas que cette personne a aussi contribué au message. Parce qu'il y a celui qui prêche et il y a aussi ceux-là qui intercèdent pour que cela porte du fruit. Nous sommes une équipe et ce que nous faisons, peu importe le petit geste, est très important aux yeux du Seigneur. Donc faisons ce que le Seigneur nous demande, que ce soit visible ou invisible, faisons-le de tout cœur, car seule l'éternité, seulement dans l'éternité, on saura quelle est la portée des petits gestes. Jésus dit, un simple verre d'eau que tu donnes au plus petit est très important. Donc ne négligeons pas les petits verres d'eau. Ne négligeons pas les 5 pains et les 2 poissons. Chacun a sa place dans l'Église. Quelqu'un fait une chose, un autre qu'une autre, mais chaque chose est importante. Donc, n'ayons pas peur d'être ces serviteurs anonymes que le Seigneur utilise pour sa gloire, pour son royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être fidèles dans ce que